À Washington, 21h à Ouagadougou et 22h à Cotonou. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis allouent 10 millions de dollars à la France dans le cadre de sa lutte antiterroriste dans le Sahel. Interview du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui s'exprimera également sur le terrorisme en Afrique.
Au-delà même de notre région, Boko Haram, c'est une malédiction pour l'humanité.
Épidémie Ebola, il s'agissait d'une fausse alerte pour les cas suspicieux au Bénin. Et enfin, dans notre page culture, l'écrivain mauritanien Boris Diallo. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro Lola Komachri. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a nommé aujourd'hui un coordinateur des Nations Unies pour gérer la crise née de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'OMS a par ailleurs approuvé l'emploi de traitements non homologués. La société pharmaceutique américaine qui a élaboré le ZMAP a indiqué qu'elle avait expédié la totalité de son stock en Afrique de l'Ouest. Par mesure de prévention, la Guinée-Bissau a fermé ses frontières avec la Guinée, l'un des trois pays les plus touchés par l'épidémie qui a fait plus de 1000 morts. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a été officiellement installée hier à Abidjan à l'issue d'une audience de prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Les 17 membres étaient tous présents, y compris les représentants de l'opposition qui avaient jusque-là boudé la commission. Des épouses de militaires nigériens ont manifesté aujourd'hui à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Des centaines de femmes étaient réunies devant des portes d'une base militaire. Elles espèrent empêcher le départ de leur mari, mobilisé pour combattre Boko Haram, et dénoncent leur sous-équipement face au groupe islamiste. Nouvel assassinat politique en Libye. Selon l'AFP, le chef de la police de Tripoli, le colonel Mahmoud al-Suissi, a été tué par des inconnus cagoulés et armés dans la banlieue de la capitale. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont en visite au Sud-Soudan. Ils menacent les belligérants de sanctions en cas de poursuite de la guerre civile. Samantha Power, ambassadrice américaine à l'ONU, a mis en garde ceux qui sabotent le processus de paix et qui violent de façon flagrante les droits de l'homme. Par ailleurs, les États-Unis ont débloqué lundi 180 millions de dollars supplémentaires pour répondre à la crise humanitaire dans ce pays. Cela porte à 636 millions de dollars le montant total mobilisé par Washington pour venir en aide aux réfugiés et aux déplacés au Sud-Soudan.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté le nouveau premier ministre irakien Haïdar al-Abadi à former un nouveau gouvernement dès que possible et a promis plus de soutien à l'Irak dans sa lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Jacques Aristide.
En déplacement en Australie aux côtés de son collègue de la Défense, Chuck Hagel, le chef de la diplomatie américaine a plaidé pour un gouvernement d'union en Irak représentant les principales communautés chiites et sunnites, de même que les minorités comme les Kurdes. Pour John Kerry, il s'agit de l'une des conditions sine qua non pour un élargissement de l'aide politique, économique et militaire pour sortir le pays de la grave crise qu'il traverse, notamment après l'offensive lancée en juin dernier par les insurgés sunnites de l'État islamique. Ils se sont emparés de larges pans du territoire irakien. John Kerry a toutefois été catégorique. Les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol. Nous ne réintroduirons pas de forces combattantes américaines en Irak. C'est une lutte que les Irakiens doivent livrer au nom de l'Irak, a conclu le secrétaire d'État américain.
Ici, aux États-Unis, la petite ville de Ferguson, dans le Missouri, a été le titre pour une deuxième nuit consécutive de manifestations suite à la mort d'un adolescent noir non armé tué par un officier de police. Michael Brown, 18 ans, a été tué samedi à Ferguson, ville de 21 000 habitants dans le Missouri. Et le célèbre acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort hier à son domicile en Californie. Il se serait donné la mort par pendaison, selon la police. Il était âgé de 63 ans. Vous écoutez La Voix de l'Amérique et la suite de Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique. Dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme, les États-Unis vont allouer 10 millions de dollars à la France en soutien à l'opération Barkhane, le dispositif militaire permanent de lutte contre le terrorisme au Sahel, que la France a officiellement lancé mi-juillet. Plus d'explications avec Baga Sikoura.
C'est officiel. Hier, le président américain Barack Obama a donné son accord pour une nouvelle aide militaire de 10 millions de dollars à la France dans le cadre de ses opérations antiterroristes au Mali, au Tchad et au Niger. Comme lors de l'opération Serval, les États-Unis n'enverront aucun soldat dans la zone, mais soutiendra l'armée française lors d'opérations de transport aérien et de ravitaillement en vol. En janvier 2013, la France avait lancé une vaste opération militaire au Mali pour chasser du nord du pays des extrémistes islamistes qui menaçaient de prendre le contrôle du pays.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. La lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'un des thèmes abordés avec Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, lors d'une interview exclusive réalisée lors du sommet Afrique-États-Unis. Interview durant laquelle le président du Faso a aussi évoqué la politique intérieure du pays. Baga Sikoura lui a demandé s'il existait un véritable dialogue avec l'opposition.
Le dialogue se fait, c'est sûr que les rencontres politiques ne sont pas toujours des rencontres qui se font en plein jour. Certainement entre les forces politiques, des contacts qui se font partout parce qu'ils sont ensemble, ces forces politiques sont à l'Assemblée ensemble, sont aussi dans la ville ensemble, partout. Donc il y a certainement des discussions qui se font.
Concernant la crise malienne, vous avez joué un très grand rôle. Quel rôle pensez-vous pouvoir jouer dans l'application des accords d'Alger?
Alors, moi, je pense que ce que nous souhaitons, c'est que Alger puisse réussir pour que nous puissions vraiment finir avec cette crise qui, vous le savez bien, affecte aussi le Burkina Faso parce que c'est sur nos frontières nord. Donc, c'est vraiment une préoccupation pour le Burkina et notre souhait, c'est vraiment de faire voir aboutir les discussions d'Alger le plus rapidement possible.
Mais vous n'avez pas été un peu frustré de n'avoir pas été associé aux accords d'Alger?
Ah non, nous sommes associés, nous accompagnons, nous soutenons les discussions qui se passent à Alger. Notre souhait, c'est bien sûr qu'il y ait un accord et que nous puissions aussi accompagner la mise en œuvre. Parce que ce que nous recherchons, ce n'est pas une publicité dans des situations aussi difficiles, mais c'est vraiment la solution à la crise qui est vraiment notre première préoccupation.
Alors, Monsieur le Président, on a vu les islamistes s'emparer du nord du Mali. Et maintenant, on a Boko Haram qui non seulement sévit au Nigeria, mais a dépassé les frontières et maintenant au Cameroun. Comment est-ce que vous voyez la résolution de cette crise liée à Boko Haram?
Alors, je pense que ce qu'il faudrait, c'est d'abord que les États s'organisent pour comprendre qu'au-delà même de notre région, Boko Haram, c'est une malédiction pour l'humanité. Et ce genre de comportement d'homme, vraiment notre siècle. Je crois qu'il faut qu'il y ait une mobilisation de la région, avec les pays de l'Afrique centrale qui sont aussi intéressés par ce phénomène, pour qu'ensemble, en mutualisant nos moyens, en organisant mieux nos services de renseignement dans la zone, et aussi en essayant d'intervenir avec une détermination, mais surtout avec un professionnalisme plus grand, que nous puissions mettre fin à ce genre de comportement assez sordide dans notre région.
Et quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce sens au niveau de la CEDEAO?
Non, la CEDEAO a décidé de relancer son programme d'action, sa stratégie de lutte contre le terrorisme dans la région, mais aussi de mettre en œuvre son plan d'action qui va bien sûr comporter un ensemble de dispositifs beaucoup plus vigoureux que ce que nous avons vu actuellement.
Et ce ne sera pas le seul front, hein, parce qu'on a maintenant la crise d'Ebola qui a atteint près de 4 pays, dont notamment le Nigeria. Comment vous organisez la riposte face à cette épidémie?
Alors, il y a des réunions qui sont prévues ces jours-ci pour permettre d'avoir une stratégie plus globale, nette, mais en même temps un suivi scientifique beaucoup plus déterminé afin d'enrayer ce fléau-là, cette épidémie, si on peut le dire.
Le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Au Bénin, il s'agissait d'une fausse alerte concernant des cas suspects du virus Ebola enregistrés la semaine dernière à Porto Novo, la capitale, et à Tanguieta, dans le nord du pays. Les prélèvements effectués sur les patients et finalement envoyés à Lagos, au Nigeria, n'ont pas confirmé la présence du virus Ebola dans leur organisme. C'est la ministre béninoise de la Santé qui l'a annoncé hier après-midi devant la presse nationale et internationale en présence du représentant résident de l'OMS au Bénin. De Cotonou, notre correspondant, Peggy Ludovic Dagba.
Le virus Ebola, tant redouté, n'a pas encore élu domicile en République du Bénin. Telle était la substance de la déclaration de la ministre béninoise de la Santé ce lundi après-midi devant la presse nationale et internationale après avoir reçu les résultats des tests des prélèvements effectués sur les cas suspects enregistrés la semaine écoulée à Coco Kenegazar. C'est voulu rassurante.
Nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour rassurer non seulement les Béninois mais toute la communauté internationale. Et cela en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé près le Bénin. Effectivement, depuis la semaine dernière, nous avons eu des suspicions de cas de la maladie à virus Ebola. Et conformément à la réglementation sanitaire internationale, nous avons procédé à l'isolement de ces cas. Nous avons fait les prélèvements qu'il faut, que nous avons adressés au laboratoire agréé par l'Organisation mondiale de la santé. Au jour d'aujourd'hui, 11 août 2014, les prélèvements suspects qui ont été envoyés à un laboratoire accrédité à Lagos sont revenus négatifs. Ce qui veut dire qu'au Bénin, les cas suspects n'ont pas été confirmés. Nous n'avons donc pas, à cet instant où je vous parle, de malades à Ebola, à cet instant où je vous parle.
Présent à la rencontre, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin a confirmé l'information avant d'inviter les gouvernants à ne pas recourir à la fermeture des frontières comme solution pour lutter contre le virus.
Au stade où nous parlons actuellement, l'Organisation mondiale de la santé, qui donne des recommandations dans la gestion des épidémies de ce type, pour le moment ne recommande pas les fermetures de frontières. Parce qu'on sait que les fermetures de frontières ne donnent pas toujours les résultats qui sont escomptés en termes d'arrêt de la transmission de la maladie, mais que les fermetures de frontières peuvent avoir ou vont avoir un impact économique très important. Pour le moment, si on veut arrêter la transmission, il faut agir à la source. Voilà pourquoi on prend des mesures très importantes.
C'est un ouf de soulagement, a dit la ministre de la Santé, mais la veille doit être renforcée à travers l'observance stricte des règles de prévention, a-t-elle recommandé. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Face à la propagation du virus Ebola, l'OMS a donné son feu vert pour l'usage de traitements expérimentaux. Le dernier bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique est passé à plus de 1000 morts. Le point avec Lola Akomachri.
Le comité d'experts réuni par l'OMS a donné son accord pour l'usage de traitements expérimentaux. Ces traitements seront utilisés à titre préventif et potentiellement pour la guérison. La priorité sera donnée aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis vont envoyer au Libéria un sérum expérimental disponible en très faible quantité pour traiter les médecins infectés. Ce sérum a été utilisé sur 2 malades rapatriés aux États-Unis, dont la missionnaire américaine Nancy Redball, qui semble se porter mieux. Par contre, le missionnaire espagnol Miguel Parares, âgé de 75 ans, est décédé à Madrid des suites de l'Ebola. Il était traité avec le sérum américain expérimental ZMAP. Hier, la société pharmaceutique américaine qui a élaboré le ZMAP a indiqué qu'elle avait expédié la totalité de son stock en Afrique de l'Ouest.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique et sur le 109.fm à Sokodé au Togo sur la radio Ciao Joe. Nous sommes en Mauritanie aujourd'hui pour notre page culture. Écrivain et journaliste, Boris Diallo est originaire du sud du pays. Il a notamment beaucoup écrit sur l'histoire et la culture des Peuls de Mauritanie. Mais le directeur du festival littéraire Traversée Mauritanide s'inquiète du fait que les jeunes lisent de moins en moins. Boris Diallo.
Pour moi, l'écriture, c'est comme disait Ampateba, c'est des piquets qu'on place. Vous avez raison de le dire, aujourd'hui les générations ne lisent pas beaucoup, les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture, d'où le fait d'essayer de poser ces traditions, des jalons par-ci par-là, et montrer ça, transmettre ça à travers l'écriture. Parce que l'oralité a des limites. Aujourd'hui, par exemple, la plupart de nos trios, la plupart de nos hommes ou de personnes mémoire, comme on dit, sont en voie de disparition, beaucoup sont partis. Donc si ces personnes-là partent et qu'il n'y a pas de legs, particulier, ce sont des traditions qui vont disparaître. Je suis directeur d'un festival qui s'appelle Traversée Mauritanide. C'est un festival littéraire qui réunit chaque année entre 10 et 15 écrivains que nous faisons venir de divers pays, France, Europe. C'est des ouvertures que nous essayons de faire. Alors ces écrivains, quand nous les amenons, c'est pour les amener dans les écoles, rencontrer les élèves afin d'inciter les élèves à s'intéresser à la lecture. Autour engagé, je ne sais pas, on a l'habitude de dire à nos auteurs engagés, c'est social. Non, moi je pense que tout auteur, suivant son activité ou ce qu'il fait, c'est une forme d'engagement. L'engagement c'est quoi? C'est pas forcément prendre un fusil, c'est pas forcément prendre des mots pour vilipender ceci, cela, mais même le fait d'essayer de participer à la préservation de sa culture, de son identité, c'est un engagement, c'est une autre forme d'engagement parce que ça permet de sauver une culture à disparition. Et lorsqu'on sauve une culture, c'est comme si on avait sauvé un humain, c'est comme si on avait sauvé une personne d'injustice, de privation, etc. Parce qu'on nourrit cette personne, mais en nourrissant cette personne-là, on marque un engagement particulier.
Boris Diallo, écrivain mauritanien. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Michel Joseph, à la console Sipsisk, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Vieux Farka Touré et son morceau Aï Bakoy. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
I'm not saying.